talmudique. Liberté, égalité, fraternité. Nombreux sont les penseurs de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle qui voulurent substituer au terme de fraternité celui de solidarité, plus concret, plus objectif, plus juridique, plus efficace, un mot éloigné de la dimension sentimentale, métaphysique, idéaliste de la fraternité. Nombreux sont les formules qui tentèrent d'argumenter contre la fragilité conceptuelle de la fraternité. La fraternité est un mot sonore, mais la solidarité un fait. Ou encore, la fraternité c'est bon pour les chrétiens, les francs-maçons et les imbéciles. Ce qui fait encore pas mal de monde, commente le philosophe Bruno Mattei qui rapporte ces citations. Il est manifeste cependant que la fraternité fait retour depuis quelques décennies, signe de la nécessité d'une réinterrogation d'un lien social que l'on ressent comme miné par ses propres insuffisances et ses contradictions. Il faut donc repenser la fraternité ou recommencer à la penser en dépassant le double écueil de l'abstraction et du sentimentalisme. Ce que fait Lévinas qui avance l'idée du fait originel de la fraternité. La fraternité serait ontologique, un lien antérieur à toutes les relations choisies. Être humain, c'est de facto être frère, être en relation avec l'autre homme, ce n'est pas un choix, c'est un fait. Mais ce fait s'expérimente. C'est l'épreuve du lien humain en tant qu'il m'ouvre à la présence de tout autre que soi, ce que l'on désigne par l'altérité dont nous avons commencé à parler la semaine dernière avec Daniel Siboni. Épreuve du lien avec l'autre qui est toujours au risque de soi et ainsi peut-être source d'effroi, une angoisse devant l'inconnu, le différent, l'étranger. L'autre me regarde, écrit Lévinas, non pas pour me percevoir, mais en me concernant, en m'important comme quelqu'un dont j'ai à répondre. L'autre qui en ce sens me regarde et visage, dit-il. Responsabilité inépuisable pour le frère, que la Bible traduira par la formule « être gardien de son frère ». Mais si cette fraternité possède un aspect positif, au point d'avoir été choisie comme un des éléments du triptyque de la devise républicaine, elle apparaît pourtant plus ambiguë par la littérature, les mythes et les textes fondateurs. On se souvient des querelles et des guerres des frères, Gilgamesh et Enkidu, Éthéocle et Polynice, Romulus et Rémus, et dans la Bible, Cain et Abel, Isaac et Ismaël, Jacob et Ésaü, Joseph et ses frères, Rachel et Léa, Moïse, Aaron et Myriam, Amnon et Tamar, pour ne citer que les plus connus, sans oublier de souligner ce fait très étonnant, qu'en une répétition très marquée, les patriarches Abraham et Isaac firent passer leurs femmes pour leurs sœurs. La fraternité est donc au cœur d'une ambivalence très forte qu'il faut interroger. Et c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec le psychanalyste Gérard Haddad qui vient de publier un livre précisément intitulé « Le complexe de Caïn », sous-titré « Terrorisme, haine de l'autre et rivalité fraternelle » paru aux éditions Premier Parallèle. Gérard Haddad, bonjour.
Bonjour Marc Alain.
L'attention que l'on peut porter à la fraternité et aux relations entre frères et entre frères et sœurs ou frères et frères est d'autant plus intéressante que ces relations furent les grandes oubliées de l'histoire de la famille, s'identifiant de manière plus exclusive avec une anthropologie de la parenté, jusqu'alors surtout centrée sur la filiation et l'alliance, plus ordonnée dans l'économie de la théorie et de la clinique freudienne à la dimension oedipienne. Comment, Gérard Haddad, en êtes-vous venu vous-même à cette réflexion psychanalytique sur la question fraternelle?
J'y suis venu par différents acheminements compliqués, mais qui a pris sa forme, qui s'est cristallisé dans cet ouvrage, depuis le jour où le terrorisme est devenu un peu le fond de l'air que nous respirons. Cette angoisse sournoise, depuis qu'il y a eu ces actes terroristes à Paris, et déjà avant. N'oublions pas l'horreur des actes de Mera à Toulouse. Tout cela m'a poussé et je me suis dit, il serait temps que nous, analystes, plutôt que toujours réchauffer les plats, que nous nous concentrions sur les problèmes brûlants de notre temps. Et ce problème brûlant auquel nous sommes, sur lequel nous devrions apporter, sinon la réponse définitive, mais au moins quelques lumières, c'est la question du terrorisme. Vous m'avez invité il y a un peu plus d'un an, justement, pour le premier ouvrage qui a été, au fond, le démarrage de cette réflexion, où j'ai voulu, comme dirait Hannah Arendt, sans, quand elle s'attaque à l'analyse du problème du nazisme, sans colère et sans haine. À cette question du terrorisme, pourquoi les hommes s'entretuent? Pourquoi des hommes font des actes gratuits comme le massacre de 90 personnes au Bataclan, qui est si proche de moi géographiquement? Et petit à petit, la question du frère a émergé. J'en avais brièvement plutôt parlé dans le précédent ouvrage. Mais cette question est devenue pour moi centrale. Si vous voulez, mon questionnement consiste à essayer, une espèce d'ambition démesurée, de saisir la violence, la méchanceté à sa racine. Et il m'a semblé que cette racine, elle est du côté de la fraternité. C'est un mot auréolé de tous les prestiges, de toutes les gloires, mais comme vous l'avez venez de le dire, d'une ambivalence monstrueuse. Vous savez, les enseignements que l'on peut recevoir, les conseils, enfin les lectures, avant de parvenir à se frayer un chemin dans notre esprit, ça demande des années. Depuis 25 ans, quelqu'un, Liliane Vanna pour la citer, m'avait attiré mon attention sur le fait que la psychanalyse qui parlait tout le temps du complexe d'Oedipe, du parricide, la Bible, elle, n'en parle pas. Il n'y en a pas un seul parricide dans ce texte si audacieux qui ne recule jamais devant aucune horreur, que ce soit les incestes, les meurtres, rien n'était épargné dans le texte biblique, sauf le parricide. Ça méritait réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui, le complexe d'Oedipe, c'est-à-dire la lutte, la haine transitoire des enfants pour la génération précédente, pour le père quand c'est un garçon, pour la mère quand c'est une fille, est-ce que ça nous éclaire sur notre actualité terroriste? Eh ben non. Si vous regardez la scène politique, tenez, je vais être un peu terre à terre, mais les primaires, n'est-ce pas, que l'on voit se multiplier dans les partis politiques, ce sont des querelles de frères. Au fond, la querelle des frères, le désir de fratricide, il faut dire les mots tels qu'ils sont, est, me paraît-il, le moteur de la violence dans nos sociétés. Cette violence a longtemps été contenue par le fait que la loi paternelle, la loi du Sinaï, qu'on soit juif ou pas, peu importe, la loi du Sinaï est en quelque sorte inhérente à toute société humaine. Je cite là mon maître Lacan, la loi du Sinaï a décliné dans l'esprit des gens. Ce déclin du message sinaïtique, Lo tirtzah, tu ne tueras point. Tu ne tueras point qui? Ton frère. Cette injonction divine aujourd'hui est passée un peu de mode, n'est-ce pas? Et donc, montée des violences, dissolution du lien social. Il faut mettre au jour cette notion de fratricide, de haine du frère qui est première. On le voit chez les grands hommes comme Goethe, comme Freud, lettre 141 à Fliss, où il parle de la haine qu'il a eue de son frère Julius, qui est mort. Tout ceci, je pense qu'en le mettant à jour, devrait permettre d'aérer un peu la question et peut-être de contribuer à l'atténuer.
Alors, pourquoi parmi tous ces frères qui se sont entretués, j'en ai cité beaucoup, il y avait Romulus, Rémus, Étéoque, Polynice et tous les autres, pourquoi avez-vous choisi précisément le complexe de Caïn? Et puis, quelle est sa nature? Est-ce que c'est de la rivalité, de la jalousie, de la haine,
Gérard Adam? Pourquoi j'ai choisi? D'abord parce que, vous savez que je suis un disciple de Lacan. Lacan avait lancé un jour ce mot, la psychanalyse souffre du fait que Freud n'a pas analysé son rapport à son judaïsme. Ce qu'il a appelé lui-même le péché originel de la psychanalyse. Séminaire 11, chapitre 1er, donc on peut vérifier. Et donc j'ai moi-même repris ce thème, j'ai écrit un livre un jour qui s'appelle « Le péché originel de la psychanalyse », précisément. Donc ce retour à ce noyau hébraïque de la pensée freudienne me paraît essentiel. Alors, Oedipe, ça fait référence à la mythologie grecque, à la dramaturgie de Sophocle. Pourquoi ne pas repartir des choses bibliques? Donc, ma petite note biblique, c'est d'appeler ça le complexe de Poligny, ça ne dit rien. Le meurtre d'Abel par Caïn est au chapitre 4 de la Torah, du Pentateuque, de Béréchit, qui est un des plus beaux livres de la Bible. C'est une espèce de coup de trompette initial dans la Bible qui nous dit « Attention, le péché est tapis à ta porte. Le péché, c'est quoi? C'est le meurtre du frère. » C'est comme l'a dit Adler, qui n'était pas un grand croyant, mais qui avait beaucoup d'admiration pour le texte biblique.
Alfred Adler
a dit « Ce livre est au fond le dépôt d'une sagesse millénaire. » Donc la sagesse millénaire, même si on n'est pas croyant, ce qui n'est pas mon cas, la sagesse millénaire nous dit le meurtre du frère est le noyau névrotique de tout conflit psychique, à côté du conflit oedipien. Le conflit oedipien se résout, le conflit fraternel ne se résout pas. Vous tuez votre frère, il y en avait d'autres qui émergent, des frères imaginaires, symboliques, tout ce que vous voudrez, mais même des frères réels. Donc voilà, il faut recentrer la question sur cet enseignement biblique. Le péché, c'est-à-dire la faute, est toujours là, imminente, c'est de tuer son frère.
Dans le texte biblique, il y a des causes, mais c'est peut-être pas les causes, ce sont peut-être pas les moteurs de tous les fratricides. Il y a une histoire.
Non, c'est la cause de tous les fratricides.
Alors racontez-nous là, s'il vous plaît, Gérard.
La cause de tous les fratricides, c'est le sentiment d'une préférence portée à un frère. La plus belle histoire biblique, c'est ça qui est merveilleux, cet arc fraternel dans le Sefer Bereshit, dans le livre de la Genèse, qui part de Caïn et qui va atterrir à Joseph. La haine entre les frères provient du sentiment que ce frère est privilégié, à des degrés divers d'ailleurs, parce que nous avons tous nos privilèges. Et si Caïn, son sacrifice n'avait pas été rejeté par Dieu au profit de celui de Abel, sans doute n'aurait-il pas tué Abel.
Mais on peut souligner, à l'inverse, que le texte rapporte qu'il est le préféré de sa mère, puisque sa mère a cette formule.
Il est l'aîné,
mais sa mère en plus formule sa naissance en disant j'ai acquis un homme avec Dieu. C'est-à-dire que il y a quelque chose, elle met dans cette naissance quelque chose de la transcendance. Et comme l'a dit souvent André Néer, qui a consacré sa vie à cette exégèse, le mot Abel, Evel en hébreu, ça veut dire le néant, ça veut dire la buée, ça veut dire le moins que rien. On peut parler, j'avais écrit ça il y a quelques années, d'un complexe d'Abel, c'est-à-dire ce sentiment justement de ne pas se sentir accepté, accueilli, aimé. On aurait pu penser que justement c'est Abel qui aurait pris sur lui ce ressentiment et qui aurait tué son frère, par exemple. Là, on a deux choses. On a une sorte de préférence, je dirais, par la transcendance et une préférence par les parents.
En tout cas, Abel, peut-être c'est une espèce d'inconsistance d'Abel que moi, personnellement, je ne soulignerai pas. C'est le berger. Il n'a pas eu le temps, il est mort sans progéniture, ce qui n'est pas le cas de Caïn, qui a une nombreuse progéniture, dont Tubal-Caïn, etc., dont Victor Hugo a chanté dans son poème La Conscience. Pour moi, la figure de Abel, au contraire, elle est très prégnante. Et elle va parcourir l'histoire, et en particulier, je pense que Jésus s'est voulu Abel, et il a voulu être, il était le Abel qui va nous, c'est l'ambition, me semble-t-il, chrétienne. De temps en temps, un juif peut se mêler de théologie chrétienne, ce que je ne me gêne jamais de faire. Et je pense que le succès du christianisme est dû au fait que dans la mythologie chrétienne, on a pigé ceci, c'est que le fratricide est permanent, et que par ce personnage, ce sauveur, il a effacé la faute originelle, qui n'est pas cette pauvre histoire de pomme qu'on a mangée, mais qui est le fait que les deux premiers frères, deux premiers êtres humains créés par un couple humain, se sont entretués. C'est ça qui est le péché originel, et voilà.
Alors vous référez à Alfred Adler, ce psychanalyste dont on peut rappeler les dates, 1870-1937, qui a élaboré la théorie du complexe d'infériorité. qui, bien que mise en sommeil par les orientations générales prises par la psychanalyse, est selon vous d'une grande aide pour mieux comprendre les mécanismes de la fraternité, et plus précisément du fratricide. Et vous rejetez la théorie du désir mimétique de René Girard, auquel vous opposez justement ce complexe d'infériorité.
Oui, cette histoire du désir mimétique de René Girard qui a un tel succès, moi, pour moi, est absolument, je dirais... Évidemment, maintenant, René Girard, pour certains, est une espèce de vache sacrée, il ne faut pas y toucher, mais je trouve son histoire de désir mimétique scandaleuse. Ce n'est pas vrai que je désire quelque chose parce qu'il vous appartient. Mon désir, d'abord, dans la théorie freudienne, il est indestructible. Il provient du fait que quelque chose de mon être s'est perdu et que je crois que l'autre le possède. D'où mon désir fratricide, on le voit avec l'histoire célèbre d'Augustin qui voit son frère. Alors, dire que je désire quelque chose parce que l'autre là, c'est un blasphème à la limite. Voilà. Donc,
d'une certaine manière, vous préférez le complexe d'infériorité pour expliquer le fratricide.
Oui, le complexe d'infériorité, c'est ce qu'a lancé, qui est vrai, quoi, quand même. Freud ne dit pas qu'il est faux, hein. Il dit, en définitive, ce qu'a fait mon élève, qu'il va exclure, enfin, qu'il va quitter la psychanalyse et fonder une école à lui. C'était le premier schisme dans la psychanalyse. Le premier schisme est né au fond de cela, du fait qu'Adler a voulu mettre en avant cette notion de conflit fraternel et de la place des frères dans la fratrie. Il pensait qu'il y avait une psychologie particulière, suivant qu'on était l'aîné, le milieu ou le benjamin. Freud a dit « le complexe d'infériorité n'est rien d'autre que mon complexe de castration ». D'accord. Mais il n'empêche que ça parle beaucoup plus aux gens de parler de ce sentiment d'infériorité qu'ils ont à l'égard de quelqu'un d'autre, et qu'ils veulent compenser par un sentiment de supériorité. Ça donne lieu à ces fantasmes, à cette violence. Et je me suis permis de dire, au fond, que chez les terroristes, ce fameux complexe d'infériorité est particulièrement prégnant. Ces petits frères en monothéisme, une frange d'entre eux, se sentant exclus du mouvement de l'histoire dans laquelle ils ont joué dans le passé, dans le Moyen-Âge, un rôle éminent, ce sentiment d'infériorité qu'ils ont à l'égard de leurs frères aînés, que ce soit chrétien ou juif, est peut-être une des causes de la violence terroriste.
Il s'agit d'un souvenir d'enfance juive. Il s'agit du jour où j'ai 10 ans.
C'était un camelot.
J'avais 3 francs dans ma poche.
Cadeau de ma mère en ce jour anniversaire. Et je décidais d'en consacrer la moitié à l'achat de 3 bâtons de détacheur.
Si le camelot m'estimerait.
Le camelot s'arrêta de discourir. Scruta silencieusement mon visage.
Tu es un sale youpin.
Je vois ça à ta gueule.
Tu es avare.
Tu es un sale juif, hein?
Je vois ça à ta gueule.
Tu n'es pas chez toi ici.
C'est pas ton pays ici.
Débarrasse-toi un peu le plancher.
Va un peu voir à Jérusalem si j'y suis.
Et si en ce jour de mes 10 ans, je repris ma marche sur le chemin de ma vie? Faut que je le redise ici. J'aimais la France. Je détestais les Prussiens.
Elle avait le même âge que moi, des jambes admirables et de courtes chaussettes.
C'est une sale race, avait dit le camelot. Et Viviane, c'était fini pour toujours. Cette haine, pour la première fois rencontrée. Cette haine imbécile fut l'annonce des chambres de grand effroi.
Ne pas haïr importe plus que l'illusoire amour du prochain.
Je vieillis que c'est un plaisir.
Nous venons d'entendre, Gérard Haddad, un extrait de « Ô vous frères humains » d'Albert Cohen, mis en scène à Avignon par Alain Timard et réalisé par Greg Germain. L'histoire que raconte Albert Cohen, nous sommes à Marseille en 1905 Et le petit Albert vit une expérience traumatique de haine antisémite et de haine tout court qui va le hanter toute sa vie. Nous sommes exactement un siècle et 12 ans plus tard. Il est intéressant de voir que ce texte de Cohen a une grande actualité. Il a été mis, je dirais, une grande actualité culturelle. Il a été mis en scène au théâtre, on vient de le voir. Il a été illustré il y a 2 ans par Luz, un des dessinateurs de Charlie, et ses planches que le Musée d'art et d'histoire du judaïsme expose en ce moment d'ailleurs. Donc on a de la littérature, on a du théâtre, on a du dessin, on a toute une sorte de pratique culturelle, de fécondité, je dirais, culturelle. Et c'est donc cette œuvre, une œuvre de culture profondément féconde qui questionne particulièrement le terrorisme d'aujourd'hui, qui d'un certain côté est un refus de la dimension culturelle de l'autre homme aussi, et d'autre part, par son choix, par exemple ici, Luz rappelle comme si c'était nécessaire que l'antisémitisme n'est pas seulement l'affaire des Juifs mais concerne tout le monde. Et en parlant de l'actualité de ce texte de Cohen, je pense à ce que vous écrivez de Lacan, Gérard Haddad, qui, dites-vous, au décours des années 1970, discerna au mieux la portée du complexe de Caïn. Il conclut le séminaire de 1972 par une prédiction concernant une prochaine montée du racisme dont le mécanisme serait lié à la trouble question fraternelle, sans préciser pourquoi ce phénomène serait imminent. Il dit alors « Sachez que ce qui monte, qu'on n'a pas encore vu jusqu'à ses dernières conséquences et qui, lui, s'enracine dans le corps, dans la fraternité des corps, c'est le racisme. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler. » Alors je me suis dit, en lisant ce texte, étonnant, lucide, prophétique, Gérard Haddad, peut-on préciser ce qu'il entend par fraternité des corps, qui peut s'entendre comme corps physique, mais aussi comme corporation? Et que voulait-il dire exactement?
Oui, c'est un texte étrange d'ailleurs qui vient comme ça à la fin d'une séance de séminaire, au moment de nous quitter, je crois que c'était au mois de juin, enfin la dernière séance de son séminaire, il nous lance ça. Et il y a quelque chose de troublant chez Lacan concernant cette question des frères. Je pense qu'il a pris la mesure en partie de l'importance du fratricide, du conflit, de la rivalité fraternelle. Mais lui aussi n'a pas osé franchir le pas que je franchis moi, si vous permettez, de poser que le fratricide, la haine entre les frères est fondatrice, elle est un phénomène essentiel du psychisme humain. Depuis le début de son œuvre, Lacan a tourné autour en parlant des complexes familiaux. Il n'a pas parlé du complexe d'Oedipe au départ, il a parlé des complexes familiaux, donc il imaginait qu'il y en avait d'autres. Mais ce pas n'a jamais été franchi de dire... oui, il y a l'Oedipe, mais il y a un autre noyau pathologique, pathogène, qui est la rivalité fraternelle, la rivalité qui va jusqu'au fratricide symbolique ou réel. Ça, donc, mais enfin, ce texte je me suis appuyé sur ce texte, m'a permis. On a besoin, n'est-ce pas, mais il y a une espèce d'aveuglement de la psychanalyse concernant le fratricide. Prenons le cas de Hamlet, dont Freud en a fait l'équivalent de d'Oedipus Rex de Sophocle, mais quand même, Hamlet, c'est pas seulement ce pauvre prince qui hésite avant de tuer son oncle. Hamlet est l'héritier d'un fratricide, ce sont deux frères, son oncle et son père. L'oncle a tué le père, et vous vous imaginez votre tonton qui a tué... vous êtes bien embêté quand ça... On aurait dû prendre la mesure de ce fratricide fondateur. Également Antigone, c'est une histoire de fratricide, vous l'avez signalé, Polynice et Théocle. Curieusement, la psychanalyse a été aveugle, en partie. Et cet aveuglement va rejaillir dans l'histoire de la psychanalyse, qui n'est qu'une histoire de fratricide. C'est pas moi qui le dis, c'est ce psychanalyste éminent, Vladimir Granov, qui a été d'ailleurs un beau traître, comment il raconte lui-même, comment dans ce livre que... Alain Didier Veil a publié Cartier-Lacan, comment lui-même a trahi Lacan, et il ajoute « Toute l'histoire de la psychanalyse, c'est une histoire de fratricide. » Et il dit « Nous n'avons aucune élaboration sur cette question. » Je me demande quel va être l'accueil que vont faire mes collègues à mon livre. Est-ce qu'ils vont se saisir, comme ils auraient dû se saisir du premier texte que j'avais fait sur « Manger le livre », pour enrichir, remettre sur le sur le sur le sur le métier, le tissage freudien.
Alors, il y a quelque chose d'assez paradoxal dans votre livre. À la fois, vous soulignez cette importance du fratricide, de ce complexe de Caïn que vous voulez mettre en orbite, si vous voulez, oui. dans l'ellipse de à côté du complexe d'Œdipe, que vous ne rejetez
en
pas.
En dialectique, voilà, en interaction.
En dialectique et en interaction. Et en même temps, vous soulignez, comme l'ont fait d'autres commentateurs, que dans le cadre des violences de ces dernières années, les terroristes agissent souvent non seulement en groupe, mais en famille, plus particulièrement en fratrie. Et oui. Vous évoquez les frères Mera, les frères Kouachi, les frères Abselam, les frères Tsarnaev et d'autres couples de frères. En quoi cela s'articule avec le complexe de Caïn? Parce que ça semble contradictoire, comme
oui,
je disais. Ces frères semblent plus être dans une amitié profonde, de cette, plus que de cette fraternité. Ils semblent plus être dans cette fraternité que nous appelons de nos voeux. Ils fraternisent pour tuer et non pour s'entretuer,
exact.
Gérard Haddad.
C'est le point délicat du livre, je le reconnais. Pour expliquer c'est de là que je pars moi-même d'ailleurs, c'est ce qui m'a frappé dans le terrorisme, c'est souvent les opérateurs sont des frères. Alors il y a deux mécanismes à mon avis qui... D'abord il faudrait quand même dire que le terroriste il tue son frère, toujours, c'est ce que dit... J'ai trouvé ce beau texte par hasard dans un livre qui s'appelle « Le chandelier enterré ». Je ne savais pas que Zweig, Stefan Zweig, était si intéressé par la question du judaïsme. On pense qu'il est... Bon, bref. Et il y a un texte de lui, Virata, où il dit « tout meurtre est un fratricide ». Donc, les terroristes sont des fratricides au carré, si je puis dire. Alors,
ils tuent ce frère humain dont
ils tuent leurs frères humains, exactement. Alors, effectivement, comment expliquer cette contradiction qu'ils opèrent souvent par bande de frères? J'y ai vu, moi, dans le cours de mon travail, parce qu'au fond, quand on écrit un livre, en fait, c'est le livre qui vous écrit, d'une certaine façon. C'est pas qui, d'où ça vient. Il y a une inspiration. Bon, tous les écrivains savent, comme on dit, j'ai pas l'inspiration. C'est quoi qui vous inspire? On laissera ça entre parenthèses. Moi, j'y ai vu deux mécanismes. D'abord, un mécanisme fondamental qui est celui du déplacement. Vous ne pouvez pas avouer, comme de la même façon, vous ne pouvez pas avouer que vous avez eu envie de coucher avec votre mère. Vous devez le déplacer, vous le déplacez, c'est le fameux mécanisme du déplacement. Vous ne pouvez pas avouer que vous avez voulu la mort de votre père, mais c'est abominable, c'est une chose effroyable. Comment mon père chéri... Alors, vous avez envie de tuer un autre, quelqu'un qui a une place, votre patron, votre ce que vous voulez, un père de substitution. De la même façon, reconnaître qu'on a eu envie de tuer son frère, Freud a eu beaucoup de mal à écrire sa lettre 141, et Goethe nous a raconté une histoire d'assiette qui se jette par la fenêtre, alors que c'était ses frères et sœurs qui sont d'ailleurs tous morts. C'est tellement horrible, cette idée, qu'on va la déplacer. Moi, j'ai rien contre mon frère. Au contraire, je l'adore, parce que par la suite, on va développer un mécanisme compensatoire de tendresse excessive, souvent. Plus cette tendresse, cet amour du frère ou de la sœur sont excessifs, plus vous pouvez soupçonner qu'au départ, c'était pas très, très, pas très, très simple, disons. Donc, il y a ce mécanisme de déplacement. Du frère à de plus en plus loin, hors de la communauté. Ça, c'est un premier mécanisme. Le mécanisme de déplacement. De la haine du frère vers un autre, un semblable quelconque. Mais il y a peut-être un deuxième mécanisme sur lequel je suis tombé par hasard. Vous savez que j'ai été très marqué par la question de la Shoah et par la réflexion sur cette question. Et le hasard a voulu, je suis tombé sur un texte d'Anna Freud qui a recueilli, je ne sais pas comment ces petits-enfants ont survécu à la Shoah, des bébés, des enfants d'un an, deux ans qui vont un peu grandir, et qui vont être recueillis dans une institution qu'elle dirigeait, du côté de Londres. Ces enfants avaient entre eux une solidarité totale, et ils ne supportaient pas l'adulte. Il y avait une haine de l'adulte et un amour du frère, de la sœur, du semblable, de même âge. J'en suis arrivé, ça peut être choquant, mais nous sommes là pour réfléchir et pas pour faire du sentiment, que les êtres humains qui sont chassés de la société, qui sont mis en marge de la société, qui ne sont plus reconnus, peuvent développer entre eux un sentiment de solidarité exceptionnel. C'est ce qu'on voit au niveau du banditisme, au niveau des gangs, au niveau des terroristes. Les terroristes sont souvent des êtres humains qui sont déclassés socialement, sont des délinquants, familialement bien souvent des enfants abandonnés, souvent, pas toujours. Tout ça crée entre eux un sentiment animal, pourrait-on dire, de solidarité. Voilà les deux mécanismes.
Je comprends, mais en même temps...
c'est un peu choquant de dire ça, mais...
On l'entend, mais on peut pas généraliser d'une certaine manière. Moi, je pense qu'on ne peut pas oublier le troisième frère Mera, par exemple, qui s'appelle Abdel Ghani, celui qui s'est opposé à leur violence, qui a fait des conférences pour la dénoncer,
oui,
qui s'est engagé dans l'aide à la déradicalisation des jeunes. Cela semble très complexe. Donc, il faut de la force pour s'extraire de la violence, qui peut être ce lien de fratrie.
Il faut de la force pour s'extraire de la violence. Il faut de la force pour arriver à cette vraie fraternité. Au fond, une des thèses de mon livre, c'est que la fraternité n'est pas une donnée biologique initiale. C'est une conquête. C'est une conquête où il faut dominer ses pulsions agressives, les sublimer, pour arriver à cette grande fraternité, telle que Goethe l'a incarnée dans son amitié avec Schiller.
Alors merci Gérard Haddad pour ces éclairages passionnants. J'ai encore moult interrogations sur la question du lien fraternel, justement sur ce lien avec Goethe et Schiller, et sur ce que vous appelez le complexe de Caïn et de son rapport à l'actualité. Je vous propose ainsi que nous nous retrouvions la semaine prochaine. Ce sera un plaisir pour moi de poursuivre cette conversation.
Ce sera un plaisir partagé.
Voilà, merci. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, Le complexe de Caïn, sous-titré « Terrorisme, haine de l'autre et rivalité fraternelle », paru aux éditions Premier Parallèle. Merci encore.
Merci.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Julien Dominck. À la réalisation, fidèle au poste, Danny Journeau, Coltouve, Leitraut. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.